Je m'appelle Victorine. Et j'ai grandi dans la nuit du Second Empire. Depuis mes 14 ans, j'ai fait de nombreux métiers. J'étais crieuse de journaux, porteuse de pain, marchande de soupe, lavandière, couturière. Je travaille 12 à 14 heures par jour pour un salaire dérisoire. J'habite au pied de la butte Montmartre avec mon mari. C'est un ancien soldat. Il passe son temps à boire. Je ne peux compter que sur moi-même.
Alors la nuit du Second Empire, dit-elle Victorine. Et pour cause, hein, avec le coup d'État du 2 décembre 1851, par lequel un Bonaparte est redevenu un Napoléon, le troisième cette fois, tout ce que les villes comptaient de milieux contestataires, de républicains, de socialistes, a pris un sacré coup sur la tête. Le régime impérial de Napoléon III, le neveu de son oncle, comme on le surnommait, a d'abord été l'empire des policiers et des gendarmes, pour le plus grand bonheur d'ailleurs des capitalistes, qui pouvaient exploiter les travailleurs comme bon leur semblait. Au Creusot, les forges de Schneider sont en plein boom, les carreaux de fosse recouvrent le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et à Lyon, les premières cheminées de la chimie sortent de terre. Sous les toitures d'usines et la férule des patrons, les prolétaires sont regroupés. Dans leur poche, le livret ouvrier permet de surveiller les mauvais éléments un peu trop revendicatifs. Bref, pour les bourgeois, les premières années du Second Empire sont une longue orgie. Mais bientôt, la fête se termine. À Paris, à part quelques grosses fabriques comme l'usine métallurgique Kail ou la fabrique d'armes Le Faucheux, qui regroupe chacune 2000 personnes, les ouvriers continuent d'être éclatés dans une multitude de petits ateliers. On peine parfois à les distinguer des artisans, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux finissent par s'installer à leur compte. Mais le prolétariat parisien a dans son dos un lourd bagage politique. Les bronziers et les lavandières de la capitale sont les arrière-petits-enfants des sans-culottes, les petits-enfants des combattants de 1830 qui ont chassé pour la deuxième fois les Bourbons, ce sont les filles et les fils des 48 arts, hein, ces révolutionnaires qui ont définitivement chassé les rois en février 1848, avant d'être réprimés quelques mois plus tard, en juin, par les milices bourgeoises. Une amère leçon méditée au cours des 20 années qui ont suivi. En juin 1848, durant 5 jours, les travailleurs de la capitale se sont battus contre les soldats de Cavaignac, le général en chef de cette république qui réprime les travailleurs. Des deux côtés des barricades, on parlait alors de république. Mais d'un côté, c'était la république de l'ordre, la république sous forme de société par action pour les classes dirigeantes. De l'autre côté, c'était la république sociale, l'aspiration d'une république débarrassée des exploiteurs. Les fusils de Cavaignac ont fait taire les ouvriers pour un temps seulement, car au début des années 1860, les grèves refont surface. En 1864, devant la pression, Napoléon concède un timide, très timide, droit de grève. L'Empire ouvre une brèche « libérale », entre guillemets, hein, bien mesurée. En 1868, les réunions publiques sont autorisées sans condition, si ce n'est celle de ne pas parler de politique. Mais dans cette brèche libérale, les milieux d'opposition se sont engouffrés. Le regain de la combativité ouvrière au cours des 10 années qui ont précédé la Commune a été de pair avec la naissance de la première organisation ouvrière internationale, l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs, fondée en 1864 à Londres et dont Karl Marx a rédigé le texte fondateur. Pour les bourgeois, l'AIT, c'est un monstre démesuré qui menace les piliers de la société, l'ordre, la famille, la propriété, la religion. Les effectifs de l'AIT, ils n'ont jamais été à la hauteur de leurs fantasmes, même si les succès sont croissants. En juillet 1869, à la suite d'une grève, les 8000 ovalistes lyonnaises, les ouvrières de la soie, adhèrent en bloc à l'international. Le prestige de l'AIT, qui organise la solidarité ouvrière entre les grèves, ne fait que s'élargir. Cette AIT a affirmé la nécessité pour les travailleurs de ne compter que sur leurs propres forces. Ces statuts commencent par la formule devenue célèbre « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Pensez donc, hein, une organisation composée en majorité écrasante d'ouvriers et s'adressant à eux sur la base des combats économiques et politiques à mener, ça change. Et ça a fait tousser pas mal d'intellectuels, soi-disant radicaux, et d'opposants bon teint au régime, bref, tous ceux qui veulent bien des suffrages ouvriers aux élections, mais qui ne veulent pas que les travailleurs se battent pour eux-mêmes. Varlin, un des militants les plus connus de l'AIT en France, pouvait ainsi dire en 1869, à l'occasion des élections où il avait poussé pour que soient présentées des candidatures ouvrières, bonapartistes, orléanistes, cléricaux et libéraux, tous s'entendent avec un touchant ensemble pour crier « Suisse à l'infâme, au pelé, au galeux ». Alors 16 ans après les journées de juin 48 qui avaient fait passer la leçon dans la douleur, l'AIT a contribué à construire l'indépendance politique de la classe ouvrière. L'AIT, elle a aussi permis aux différents courants du mouvement ouvrier de discuter à l'intérieur des mêmes murs, et sous la pression heureuse de la montée ouvrière qui a précédé l'effondrement de l'Empire. L'opposition à la grève, qui comptait beaucoup de partisans parmi les internationaux, au début, a ensuite reflué. Cette opposition à la grève, en passant, elle est révélatrice de l'imprégnation dans la classe ouvrière des idées de Proudhon, un imprimeur typographe qui a prêché l'affranchissement des travailleurs par leur mise en association et l'accès au crédit pour qu'ils possèdent leurs propres moyens de production. Dans cette optique, la grève ne sert effectivement pas à grand-chose, mais la montée des grèves a tranché le débat. En 1870, devant l'instabilité intérieure croissante, Napoléon le Neveu a dégainé la vieille ruse des pouvoirs affaiblis, la guerre. Les contestations montent, le sentiment républicain qui n'avait jamais vraiment disparu refait surface à l'occasion des obsèques de Victor Noir, un journaliste tué par un Bonaparte. L'alliance de la mitraille et de la prison sous le patronage de l'empereur n'y change rien. En juin 1869, à la Ricamari, en octobre de la même année, à Aubin, la troupe tire sur les grévistes, mais qu'importe, les grèves continuent et de plus belle. 7000 ouvriers du Creusot arrêtent le travail en janvier 1870. Après deux procès en 1868, l'AIT a subi un troisième en juin 1870, mais cela ne fait que renforcer son prestige. Lancer les armées françaises sur l'Allemagne, voilà le plan mis à exécution à partir du mois de juillet 1870. À grand renfort de Marseillaise, autorisée pour l'occasion, l'empereur comptait susciter l'élan patriotique. Mais l'enthousiasme populaire pour cette guerre de voleurs reste très mesuré. Et l'international a eu une position très claire sur le sujet. S'adressant aux ouvriers allemands dans un manifeste du 12 juillet, l'international dit « Restez sourds à des provocations insensées, car la guerre nous serait une guerre fratricide ». En quelques semaines, l'armée française est complètement délitée. Napoléon a capitulé le 2 septembre, emprisonné avec ses grognards à Sedan. À Paris, l'annonce de la capitulation sonne comme un coup de tonnerre. À mesure que les troupes allemandes pénètrent sur le territoire, l'ambiance change. On recommence à entendre les refrains de 1792, ceux de la patrie en danger et de la levée en masse pour chasser l'ennemi. L'international même a changé son fusil d'épaule dans une affiche placardée le 4 septembre à Paris. Le peuple français ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.